questions au cas où vous auriez des questions. Merci.
Merci beaucoup. On va commencer avec une question ici à Kinshasa pour notre invité, s'il vous plaît. Le monsieur en bleu.
Roger Marley Lukunga pour Elima News et Elaïs Hebdo. J'aimerais savoir, monsieur le coordonnateur humanitaire adjoint, est-ce que les aides qu'apporte le PAM et l'assistance qu'apporte le FAO peuvent aussi lutter efficacement contre la malnutrition dans un pays comme le nôtre?
Oui, merci, merci beaucoup. Oui, donc il y a absolument, il y a deux secteurs qui sont impliqués dans ce que vous venez de dire. Un, c'est le secteur de la sécurité alimentaire et deux, c'est le secteur de la nutrition. Dans le secteur de la sécurité alimentaire, le PAM et la FAO travaillent pour comme Cluster Lead, mais il y a beaucoup d'autres ONG qui participent aussi dans ce secteur-là, pour donner d'abord une assistance en vivres immédiate, qui peuvent être assistance en vivres ou bien en cash, il y a les deux modalités, pour donner aussi un relèvement avec les moyens de vie aux populations qui sont déplacées, typiquement les personnes qui retournent, donc elles ont des paquets d'assistance au retour. Et il y a aussi des projets de résilience qui cherchent à assurer que la qualité de la production des producteurs agricoles est plus élevée, que les questions autour des conflits autour de la terre sont résolues. Un projet de résilience qui implique le PAM, la FAO et puis l'UNICEF aussi. Les questions de nutrition sont des nutritions plus, une question plus médicale, avec un volet médical, c'est le suivi nutritionnel des enfants avec l'appui en complément nutritionnel aux enfants qui sont en malnutrition sévère ou en malnutrition aiguë. Merci.
Merci, on va aller à Goma pour une question. On fera Goma, une question Goma, une question Bounia et on revient à Kinshasa. On ne vous entend pas.
Parle plus fort, s'il vous plaît.
Bon, je suis Alain Wandimoy, journaliste à La Triche Hebdo, présent à Goma. Il y a hier, un notable de Walikale a dénoncé sur Radio Kapi que la faction NDCR venait de recommencer le combat. Maintenant, sur le plan humanitaire, cette population, 70% de cette population serait en brousse. Que fait les humanitaires pour soulager ces populations qui sont en brousse? Et d'une part, ça c'est le volet pour la sécurité. Que dit la MONUSCO par rapport à la sécurité? Que va faire la MONUSCO puisque à Pinga c'est le groupe armé qui dirige Pinga? Que fait la MONUSCO pour restaurer la sécurité à Pinga? Merci.
D'accord, on va écouter d'abord le porte-parole militaire et ensuite Diego pourra répondre. Ou Diego commence? Diego, vous pouvez commencer.
Bien, merci. Donc, oui, depuis, en fait, la situation autour de Pinga est une situation qui n'est pas, qui se développe déjà depuis il y a quelques semaines. On avait déjà une nouvelle à partir du 9 juillet, comme quoi les affrontements autour de l'axe Kalembe-Pinga ont fait un déplacement d'environ 10 000 personnes. On essaye d'assister, mais l'assistance humanitaire, le pouvoir déployer des humanitaires requiert aussi qu'il y ait des conditions de sécurité aussi pour ces opérations humanitaires. Il y avait des humanitaires qui étaient à Pinga, certains ont dû se replier, d'autres ont pu rester. Dès qu'on peut, notre mode opératoire est de faire une évaluation des besoins multisectorielles de tous les secteurs des populations déplacées, mais il faut d'abord que ces populations soient stabilisées quelque part, soit dans des camps ou bien soit dans des familles d'accueil, et ensuite qu'il y ait des conditions de sécurité pour permettre nos opérations. Mais dès qu'on peut y aller, on y va. Merci.
On vous écoute, porte-parole militaire. On vous écoute.
Ok, voilà. Vous m'entendez?
Tout à fait, allez-y.
Ok, merci. Par rapport à cette question, je voulais le rassurer que la force continue de poursuivre ses patrouilles pour dissuader les groupes armés et empêcher leurs actions. Et surtout, elle continuera à travailler avec les forces de défense et de sécurité, les FARDC notamment, pour ramener cette culture, cette tranquillité dans ces différentes régions en crise. Merci.
Merci. On va aller à Bounia pour une question, s'il vous plaît. Bounia.
Salut Mathias, salut à nos auditeurs. Bounia, deux questions pour commencer.
Je suis journaliste à la Radio Merveille Bounia. J'ai deux questions à poser. La première porte sur la protection. M'attendez? Oui, la première question porte sur la protection de civils. C'est qu'en fait mal compris par la population. Concrètement, quand est-ce que la MONUSCO intervient pour protéger les civils? Et la deuxième question porte sur le processus de désert. De nombreux analystes congolais pensent qu'aucun processus de DDR n'a jamais abouti à RDC. On les voit actuellement avec celui de FRPI qui piétine, en fait. Si vous pouvez donner des conseils à votre partenaire qui est le gouvernement pour qu'on puisse aboutir à des bons résultats et surtout durables. Voilà.
Merci beaucoup, merci pour ces questions. Alors concernant les DDR, je pense que la représentante spéciale a été claire ici même il y a deux semaines. Nous n'encourageons pas le gouvernement ni à amnistier sur de longue durée, ni à réintégrer les membres des groupes armés dans les forces de sécurité congolaises. Elle a été claire. Si un choix est fait pour une réintégration sur une base communautaire, c'est-à-dire où les éléments des groupes armés qui n'ont pas été impliqués dans des atrocités doivent ou peuvent bénéficier d'un soutien pour une formation professionnelle et pour une réintégration au sein des communautés. Si les programmes prévoient que les communautés qui réabsorbent ces éléments des groupes armés puissent recevoir un soutien en termes de projets de développement, alors la MONUSCO est prête à soutenir les processus. Il est clair pour nous, effectivement, que la réintégration des groupes armés dans les forces de sécurité congolaises n'a pas marché. Et c'est pourquoi nous privilégions la réintégration communautaire dans notre soutien. En ce qui concerne le processus avec les FRPI, il y a des discussions qui sont en cours entre le gouvernement et les FRPI pour que nous puissions commencer à soutenir le processus de démobilisation et de désarmement. Nous avons préparé des camps de cantonnement. Ils sont prêts depuis plusieurs mois et nous attendons que le gouvernement et les FRPI lancent officiellement la démobilisation et le désarmement pour pouvoir poursuivre l'élan qui a été donné par la signature de l'accord à la fin février. Et enfin, sur la protection des civils, c'est le cœur de notre mandat. La MONUSCO intervient autant qu'elle peut en essayant de cibler les groupes qui sont les plus vulnérables. Comme l'a dit mon collègue militaire, à Bounia et autour de Bounia, nous essayons de sécuriser les axes routiers et nous essayons de concentrer aussi nos efforts sur les populations déplacées qui sont les plus vulnérables. Ce qu'il faut pour que la protection des civils puisse être mieux assurée, c'est évidemment une présence de l'État plus forte. Parfois, l'État est complètement absent de certaines zones et c'est là que vous voyez soit des tensions communautaires se développer et être réglées dans le sang, soit des groupes armés qui agissent en toute impunité. Donc nous accompagnons l'armée congolaise, nous accompagnons la police aussi pour qu'elle améliore ses capacités, pour qu'elle améliore sa couverture du territoire congolais. C'est un travail au long cours, mais on est déterminé à continuer à le faire. On va revenir ici à Kinshasa. Myriam Silo.
Voilà, merci. C'est Myriam Iragui de Top Congo FM. La première question au coordonnateur humanitaire par rapport à la crise et à l'épidémie d'Ebola. Le plan de riposte, vous l'avez dit, prévoyait 40 millions de dollars américains pour en arriver à bout avec cette épidémie. Vous avez dit que les mobilisations ont commencé, mais j'aimerais savoir à combien vous en êtes aujourd'hui. C'est combien d'argent a déjà été mobilisé pour la riposte contre Ebola de l'Équateur. Et puis, par rapport, je reviens un tout petit peu sur la question de démobilisation, désarmement des rebelles ou milices dans l'est du pays. La position de la MONUSCO est claire. Vous avez parlé des FRPI, mais j'aimerais savoir qu'en est-il des CODECO, parce que c'est quand même une situation assez particulière. Nous savons ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ils sont sortis de leur campement pour rentrer dans la ville. Est-ce que de ces côtés-là, au-delà de votre position, est-ce que vous suivez cette affaire?
On suit évidemment cette affaire. Je vais commencer, si vous voulez bien, sur Bounia, parce que ça concerne aussi la question précédente. On suit évidemment cette affaire et on est préoccupé par l'incursion qui a eu lieu dans les rues de Bounia. Qu'un groupe armé puisse parader, entre guillemets, dans les rues d'une ville du Congo est évidemment inacceptable. Et je pense que les forces de sécurité congolaises partagent cette analyse. Sur l'événement lui-même, les miliciens qui sont entrés dans Bounia étaient sous escorte des forces de sécurité congolaises qui maîtrisaient la situation, qui semblaient gérer la situation. Donc la MONUSCO est restée en retrait. Les forces de sécurité congolaises, vous savez, sont souveraines. La MONUSCO est restée en retrait, mais prête à intervenir. On était en état d'alerte maximale. La situation semblait être maîtrisée. La situation semble avoir été maîtrisée. Maintenant, nous continuons à travailler pour, évidemment, avec les autorités, pour soulever cette préoccupation, non seulement de cet événement, mais aussi de la proximité de Bounia, de ces miliciens.
Merci. Le premier plan pour les premiers trois mois a été financé, était un plan de 40 millions. Je pense qu'on est à quelques 32, 33 millions qu'on a obtenu pour ce plan-là. C'est un plan multisectoriel, mais qui inclut le gouvernement et les agences des Nations Unies et les ONG. Ce qui ne veut pas dire que toutes les agences ont reçu le 100% des financements qu'elles avaient requis. Nous sommes maintenant en train de parler d'un deuxième plan qui va commencer à partir du 1er octobre, parce que malheureusement, l'épidémie n'a pas été jugulée aussi rapidement qu'on l'aurait espéré. On a bon espoir que ça pourrait être fait dans les prochains mois. Le nombre de cas actifs est relativement limité. Nous sommes à 18 cas actifs, donc j'espère qu'on arrivera à finir l'épidémie. Mais c'est aussi une occasion, comme je disais, d'investir, de faire que les investissements qui sont faits pour la réponse à Ebola soient des investissements qui soient durables aussi pour le système de santé dans la province de l'Équateur. Par exemple, des radios à VHF pour assurer que les postes de santé sont capables, les centres de santé puissent communiquer avec le médecin-chef de zone de santé, ou bien certaines améliorations dans la logistique et la communication qui permettraient une réponse plus efficace aussi au futur. Merci.
Merci. Monsieur.
Merci, c'est Isaac Ngwenza pour le compte politique RDC.net. Ma question s'adresse au responsable de situation humanitaire à l'Est. Je vous ai suivi avec attention. Vous avez souligné que pour apporter une paix durable, les solutions politiques sont nécessaires. Alors pourrions-nous déduire de cette approche que les problèmes ou les conflits armés seraient aussi politiques? Et si c'est ça, qu'est-ce que vous attendez pour chercher ces solutions politiques afin de mettre fin une fois pour toutes à ces conflits armés à l'Est? Merci.
Merci. Non, merci. Ce que je voulais dire, je me suis probablement mal exprimé, donc vous m'avez suivi avec attention, donc merci beaucoup. Non, les solutions ne sont pas nécessairement des solutions politiques. Chaque conflit, il y a une myriade de conflits, chaque conflit a ses propres dynamiques, et je me réfère à Madame Zerougui pour de nous donner l'orientation de comment est-ce que les Nations Unies doivent s'impliquer dans chacun de ces conflits. Ce que je voulais souligner, c'était que l'assistance humanitaire, les besoins humanitaires sont directement liés à ces conflits. Donc il faut que ces conflits finissent pour qu'on puisse finir avec l'assistance humanitaire. Ce n'est pas normal qu'un pays comme le Congo ait plus de 5 millions de personnes qui soient déplacées, qui vivent dans des conditions abjectes, et qu'on doive demander à la communauté internationale des milliards de dollars pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc il faut absolument qu'il y ait des solutions qui amènent la paix au Congo. Mais alors, qu'est-ce que ces solutions soient politiques, militaires ou autres, je laisse ça à Madame Zerougui et à la MONUSCO.
Je pense que les solutions sont effectivement politiques, humanitaires et développement. Tout est lié. On essaye de développer au sein des Nations Unies ce qu'ils appellent une approche nexus, qui fait que les acteurs qui travaillent sur l'humanitaire, sur le développement et sur la sécurité travaillent ensemble, parce que c'est vrai que la plupart de ces des conditions de conflit peuvent en tout cas être aidées par une implication politique et un travail politique pour régler notamment les problèmes d'accès à la terre, les problèmes d'accès à la justice. Quand vous avez des communautés qui sont éloignées, où il n'y a pas d'État et où il y a des différends, où il y a des conflits entre communautés ou même entre voisins, et que les Congolais ne peuvent se tourner vers aucune institution pour régler ce conflit de manière pacifique, les germes du conflit sont là, les germes sont semés, parce que vous n'avez aucune autorité, aucune institution vers qui vous tournez. C'est pour ça que notre travail est aussi d'essayer, en plus de ce que vous voyez militaire et qui est immédiat, c'est aussi d'essayer de développer des mécanismes avec la justice, avec la police, pour que les Congolais puissent avoir recours à leur État, à leurs institutions, pour régler leurs différends. On va repartir à Goma pour une question.
Je suis M. Justin Kabumba, correspondant de la 24 News en RDC. Je vais revenir sur une information qui a circulé depuis la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Faisant état, il faut d'abord rappeler que lors de la récente attaque à Dief et à Beni, il y a certains habitants de cette ville qui ont témoigné avoir vu quelques casques bleus de la MONUSCO avoir ravitaillé l'ennemi, qui est bien sûr les ADF. Mais jusque-là, la MONUSCO n'a jamais, ou bien elle n'a pas encore démenti cette information. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à, s'il faut le dire, des rumeurs qui circulent déjà sur les réseaux sociaux?
Écoutez, merci pour cette question. C'est l'idée qu'on puisse ravitailler les ADF est calomnieuse et mensongère et franchement insultante quand on pense aux casques bleus qui ont perdu la vie contre ce groupe armé. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a des messages qui sont clairement malveillants et qui sont destinés à casser la confiance entre la MONUSCO et la population, et souvent aussi entre les FRDC, l'armée et la population. Et nous encourageons vraiment les médias et les faiseurs d'opinion que vous êtes à être extrêmement prudents lorsque des rumeurs malveillantes sont circulées. On va retourner à Bounia.
Voilà, c'est Constant Sam Bagaloua de la radio-télévision Montbleu. Juste deux petites questions, c'est en rapport avec l'amnistie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté en Conseil des ministres le week-end dernier les projets de loi sur l'amnistie, alors que la MONUSCO, qui est son partenaire incontournable, est contre cette amnistie. Aux compatriotes qui ont tué, violé, pillé et même rendu de nombreuses familles vulnérables, comment comptez-vous réconcilier ces deux points de vue, vous qui êtes partenaire du processus de paix pour la paix, je voulais dire, en République démocratique du Congo? Et la seconde question, c'est en rapport avec l'irruption de la milice Codeco en ville de Bounia le 4 septembre dernier. Pendant ce temps, la MONUSCO était restée dans sa base militaire. Est-ce qu'il y a-t-il pas contradiction entre cette attitude et votre mandat de la protection des civils? Merci.
Merci. Alors, concernant l'incursion, je pense que j'ai déjà répondu. Nous étions en état d'alerte, mais la situation était maîtrisée par les forces de sécurité congolaises et qui sont souveraines sur leur sol. Sur la première question concernant l'amnistie, vous avez raison de dire que nous sommes partenaires du gouvernement, mais le gouvernement, là aussi, est souverain. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous n'encourageons pas le gouvernement à amnistier sur de longues durées. Ce n'est pas une comme la représentante l'a dit ici même il y a deux semaines, ce n'est pas une approche qui nous semble satisfaisante et à même de régler les conflits. Maintenant, le gouvernement prend ses décisions telles qu'il est tout à fait en droit de le faire. On revient à Kinshasa. S'il vous plaît.
Mulegwa pour RFI. Monsieur le coordonnateur humanitaire, il y a flambé de la violence, mais ce qui contraste justement avec les financements. Vous êtes aujourd'hui à 22%. Qu'est-ce qui justifie cette réticence des bailleurs à financer vos opérations humanitaires? Voilà.
Merci. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une réticence. En réalité, les financements humanitaires sont restés assez stables pendant les dernières années. On a été dans les dernières années environ de 600, 700, 800 millions de dollars par année. Il y a aussi les grandes contributions qui ont été faites l'année dernière pour la réponse à Ebola, qui ont drainé beaucoup de ressources. Je ne pense pas que je puisse parler de qu'il y ait une réticence, mais il y a une grande compétition pour ressources, malheureusement, avec d'autres crise humanitaire, la crise au Yémen, la crise en Syrie, qui sont peut-être plus visibles politiquement. Donc nous nous efforçons, avec votre soutien justement, de rendre visibles les besoins humanitaires au Congo. Moi, j'essaie de parler souvent à la presse. Monsieur David McLachlan-Carr, le coordonnateur humanitaire, le fait aussi, pour justement rendre visibles ces besoins humanitaires au Congo et expliquer que ce n'est pas une grande crise qui dure depuis il y a 25 ans. Ce sont des crises spécifiques qui touchent des hommes, des femmes, des enfants et certains d'entre eux de très bas âge et qui n'ont pas vécu les crises précédentes pour lesquelles la crise actuelle et la crise qu'ils vivent et les besoins humanitaires sont les besoins humanitaires pressants. Présent. Je remercie beaucoup de nouveau les bailleurs qui sont engagés, mais vraiment, il faut changer ce modus operandi pour passer, j'espère, bientôt à ce que les besoins humanitaires décroissent plutôt que croissent, parce qu'il y aura des processus de paix qui permettront à ces populations déplacées de revenir à leurs habitations. Merci.
Merci beaucoup. Rapidement, la dame et le monsieur. D'abord la dame. Très rapidement.
Nénette Fomba, du journal Opinion. L'espace politique congolais est dominé par une nouvelle éventualité du dialogue entre politiciens. Y êtes-vous d'accord?
Nous sommes toujours partisans du dialogue et nous encourageons tous les acteurs politiques à dialoguer et à se concentrer au-delà des polémiques et au-delà du débat qui peut parfois être animé sur l'apport de solutions aux problèmes immenses qui touchent le Congo aujourd'hui. Et on va conclure avec monsieur.
Merci pour la parole, c'est Symphorien Katumba. Pour le compte de l'explorateur, j'ai une préoccupation à l'intention de monsieur le coordonnateur. Pour rebondir sur les cas d'espèces de bailleurs de fonds que vous avez cités, les États-Unis, le Canada, est-ce qu'il y a-t-il des critères appropriés pour ne pas avoir une liste qui peut s'allonger et s'ajouter à ces bailleurs de fonds pour en sorte que vous ayez des moyens solides à pouvoir, sur ma foi, faire face à cette aide d'humanité qui demande beaucoup de bailleurs de fonds?
Il y a un groupe de bailleurs de fonds important en RDC. Je les ai cités environ 10. Les États-Unis le premier, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Canada, la Suisse.
La Belgique.
Voilà. Dans l'ordre, j'avais cité les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne, l'Allemagne, la Suède, le Canada, la Belgique, le Pays-Bas et la Suisse. Ceux-ci sont les principaux bailleurs de fonds. Vous remarquez, il y a beaucoup de pays européens, plus les États-Unis et le Canada. On essaie de faire le plus possible pour continuer à étendre le groupe de bailleurs de fonds, mais il faut aussi que les pays comprennent la même chose que le Congo est souverain, que les pays comprennent que cette générosité de la communauté internationale, cet esprit de solidarité doit être accompagné aussi d'efforts congolais pour limiter les situations qui donnent lieu à ces situations, à ces besoins humanitaires. Merci.
Et merci beaucoup. Nous devons rendre l'antenne. Merci aux auditeurs de Radio Okapi et dans 2 semaines. Merci beaucoup.
Merci.